les conférences de la grenouille. À écouter sur le 88.8. Chaque samedi à 10h.
Et le premier samedi du mois, c'est un livre, un chercheur, bonjour. La conférence du jour est celle que le chercheur Philippe Curie a donnée à l'Alcazar à partir de son livre « Mange tes méduses, réconcilier les cycles de la vie et la flèche du temps ». Cette conférence est issue d'un cycle proposé cette année encore par l'IRD, Institut pour la Recherche et le Développement. Philippe Curie, que vous allez entendre, est directeur de recherche à l'IRD et spécialiste des écosystèmes marins.
Le schéma du livre est très simple, c'est, je ne vais pas tout vous décrire bien sûr ce soir, sinon vous ne l'achèterez pas, c'est sur les cycles de la nature, comment fonctionne la nature. Alors, en réalité, quand on lit Darwin, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il était fasciné aussi par une chose, c'était que, vous savez, Darwin, il passait son temps à regarder sur la nature, et puis à regarder ce qui se produisait dans la nature. Et alors, il avait noté plein de choses, et puis il avait commencé un livre, qu'il n'a jamais fini d'ailleurs, dans lequel il notait que les animaux avaient des habitudes. Il appelait ça des habits. En réalité, ils sont comme nous. Tous les soirs, ils rentrent chez eux. Ils vont dans l'endroit où ils vont se nourrir. Ils connaissent très bien, puis ils reviennent. Et il y a, dans ces forces de la nature sont absolument considérables. Il y a ce qu'on appelle une obstination de la nature. Alors, il y a plein d'exemples dans le livre que vous lirez avec plein d'anecdotes. Et bien sûr, on connaît les saumons, vous savez, les saumons se reproduisent dans une rivière, et puis ils reviennent, ils vont en mer, ils vont se nourrir pendant 2-3 ans, et puis après ils reviennent sur l'endroit où ils étaient nés. Donc c'est ce qu'on appelle le homing. Alors en français, je ne sais pas trop comment traduire ça, il y a les Canadiens qui appellent ça le retour au bercail. Je trouve ça joli, c'est mignon. Mais arrêtez, tout le monde retourne au bercail. Vous savez, tous les oiseaux, par exemple les oiseaux, retournent aussi au bercail. Ils font des migrations absolument de très grande ampleur et retournent au bercail. Les tortues marines, alors les tortues marines, c'est exceptionnel parce qu'elles pondent des fois sur des plages qui sont des mouchoirs de poche. Et puis, 60 ans plus tard, donc elles éclosent sur cette plage. Et puis, donc elles essaient d'échapper aux prédateurs. Vous avez vu tous ces films-là dans les documentaires d'écologie, etc. Et elles s'en vont dans la mer, et puis elles échappent, et puis elles vont se nourrir, elles essaient de grossir, donc elles suivent les courants, généralement, les grands courants océaniques. Et puis il y a certaines, comme il y a certaines espèces qui, 60 ans plus tard exactement, reviennent exactement au même endroit. Donc, en été, la nature, elle est faite de cycles extrêmement lents, très précis, avec beaucoup d'habitudes. Alors là, vous avez une mosaïque du Premier Empire, qui est une photo qu'on a prise en Tunisie. Et vous voyez l'homme au milieu de... C'est en Méditerranée, donc. Et vous le voyez, les ressources marines sont absolument complètement diversifiées, très abondantes. Vous avez même là des petites méduses. Mais bon, les petites méduses, elles sont au milieu d'un nombre absolument incroyable de ressources. Et très tôt, les ressources sont apparues comme inépuisables. Et alors, quand on suit les écrits, et ça, c'était le premier bouquin que j'avais fait sur l'histoire de notre perception de notre environnement. Et quand on regarde cette histoire, il y a des grandes étapes. Et dans ces grandes étapes, il y avait Grotius. Alors, Grotius, vous voyez, c'est pas jeune, 1609. C'était un juriste. Et puis il a fait, il a fait un livre. Alors c'était un type absolument génial. À 11 ans, il rentrait à l'université. À 13 ans, il faisait sa thèse. Donc voilà, ça décapait. Donc voilà, il a fait un livre. Et alors à l'époque, bien sûr, hollandais, c'était le temps des grandes explorations. Il fallait garder le monde libre. Et ça, c'est une constance chez l'être humain, c'est qu'il faut toujours garder un espace libre pour pouvoir se développer, pour pouvoir s'épanouir, et puis prendre des initiatives, et puis explorer, etc. Donc ça, c'était une des grandes étapes, parce qu'à l'époque, il y avait les Anglais, bien sûr, qui avaient fait Mare Clausum, et donc qui voulaient, en réalité, commencer à territorialiser la mer. Et il y avait donc ces deux forces, mais la force, c'était bien sûr, qui a gagné, c'était Mare Liberum, La mer, c'est un espace libre dans lequel on va pouvoir s'épanouir et dans nos activités. Donc la mer, la pêche en mer est libre car il est impossible d'en épuiser les richesses. Et puis vous voyez que même fin 19e, il y avait Thomas Huxley, c'était le grand copain de Darwin, et lui il disait alors c'était les premières mesures un peu quantitatives, et il disait non, il n'y a pas de problème, on peut pêcher, rien de ce que nous faisons ne pourra jamais affecter le nombre des poissons. Alors en réalité, on a conquis les mers, on a conquis l'espace, on a aussi eu un appétit absolument incroyable pour les ressources marines. Alors ça, c'est, je vais vous expliquer cette figure-là, mais c'est une des figures les plus incroyables que je connaisse. Vous savez, il y a les FAO qui, chaque année, depuis les années 50, collectent les statistiques de pêche. Et alors, ce qu'on voit, c'est notre appétit grandissant pour les produits marins. Donc un habitant, en 1950, il consommait 3 kilos. Aujourd'hui, il en consomme quelque chose comme 20 kilos par habitant. Et bien sûr, la population, elle est passée de 3 milliards à plus de 6-7 milliards. Donc vous voyez l'incroyable pression et notre appétit dévorant pour les ressources marines. Pour maintenir cette consommation mondiale qui s'emballe, on a été obligé de trouver, vous voyez, à partir des années 80, où on a commencé à avoir une stabilité des captures de poissons marins mondiales, on a développé l'aquaculture. Et donc, quand on ajoute les deux, vous voyez que la croissance, c'est quelque chose comme 6% par an. Donc, c'est notre appétit pour la mer qui a été à la fois comblé par les captures mondiales, mais aussi par l'aquaculture. On pourrait se dire, ben voilà, c'est parfait, ça se stabilise parce que finalement, on exploite de façon durable ce qu'il y a dans la mer, et puis c'est reproductible. Comment on peut maintenir ces captures à peu près stables? Alors, est-ce que c'est un effort stable ou bien, en l'occurrence, non, c'est pas un effort stable. C'est-à-dire que c'est pas un nombre de bateaux, un nombre de pêcheurs, un nombre d'hameçons. En réalité, c'est beau, ces nombres-là ont été multipliés de façon incroyable. Et vous avez en réalité cet effort qui a quadruplé, vous voyez, en moins de une trentaine d'années, qui a quadruplé. C'est-à-dire que pour pêcher toujours une même quantité, il a fallu aller en pêcher toujours plus. Toujours plus. Alors, cette activité de pêche, en réalité, elle a beaucoup changé au cours de ces 30, 40 dernières années. Et vous voyez, ça, c'est un chercheur, là, Alain Fontenot, qui travaille sur les thoniers seineurs. Donc, ça, c'est des bateaux qui pêchent les thons. Et il a fait toute une carrière à l'IRD, plus de 40 ans. Et il m'a donné ces photos-là quand il a commencé sa carrière, et puis quand il a. Et puis maintenant. Alors, vous voyez, ça, c'était un seineur dans les années 50. Alors, vous voyez, l'engin de pêche, quoi. Petit engin de pêche avec un petit filet. Et puis, aujourd'hui, vous avez ce type d'engin qui s'apparente à des armes de guerre, quand même. C'est avec des sonars 3D, tridimensionnels, qui peuvent repérer les thons à 3 km à la ronde, avec parfois des hélicoptères, avec toute l'instrumentation, une instrumentation qui est en fait héritée de la guerre. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que, vous voyez ce bateau des années 70, là, celui du milieu. En réalité, il existe toujours. Et on l'a suivi. On l'a suivi depuis 30 ou 40 ans. Et puis, on a publié des résultats là-dessus. Et alors, c'est incroyable parce qu'on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il pêchait 7 fois plus entre 1970 et puis 2010. Alors, comment c'est possible? Pêcher 7 fois plus alors que je vous ai montré que les captures étaient stables, et en réalité, l'abondance des thons, là c'est dans l'océan Indien, elle a diminué de moitié. Alors comment c'est possible? C'est possible par la technologie. C'est-à-dire une technologie qui est une technologie de détection des thons, donc ça va très vite, des GPS, des nouveaux engins de pêche, des filets beaucoup plus légers, beaucoup plus efficaces, etc. Donc vous voyez, simplement, cette technologie mise en œuvre permet d'exploiter 7 fois plus de thons alors qu'ils ont diminué de 50%. Alors juste, je voulais vous dire quelques petits mots sur, parce que je travaille à l'IRD, donc on s'intéresse beaucoup aux pays en développement, et en réalité, tout le poisson que vous mangez, il n'est pas pêché en Méditerranée du tout, pêcher un petit peu en Atlantique, mais en réalité, les deux tiers des poissons que vous mangez, ils viennent des pays du Sud. Donc, on déshabille Paul pour habiller Pierre. En réalité, on déshabille Pedro pour habiller Pierre. Alors, vous avez d'abord le poisson, c'est ces ressources marines. Ce sont les ressources les plus échangées au niveau mondial. On le sait pas, ça. On ne sait pas. Et alors, par exemple, quand vous comparez au blé, le blé, simplement 20% est échangé au niveau mondial. Et le riz, 5%. C'est-à-dire qu'en réalité, le riz, c'est consommé localement. Tandis que le poisson, c'est un marché absolument mondial. 40%, c'est énorme. Alors, si vous... Il y a trois gros consommateurs mondiaux, les USA, l'Union européenne et le Japon. Si vous sommez tous ces consommateurs-là, vous obtenez un chiffre absolument incroyable, c'est à peu près 28 millions de tonnes de poissons, c'est-à-dire 35% des captures mondiales. Donc, quand vous sommez ça, plus le chiffre d'après, c'est-à-dire presque 40% des captures qui sont transformées en farine de poisson et en huile de poisson qui sont destinées à nos poulets, à nos porcs, et puis au saumon d'élevage, et puis à toute l'aquaculture asiatique, parce qu'en réalité, l'aquaculture, c'est asiatique. Donc, quand vous semez tout ça, vous voyez, il ne reste pas grand-chose pour les pays du Sud. On a récemment, c'est Daniel Poli qui a travaillé là-dessus, il a fait cette carte-là, vous voyez, cette carte-là, il s'est intéressé à toute l'Afrique. Et puis, il a regardé, vous savez, il y a la Chine qui est très présente en Afrique en ce moment, et il a regardé l'extraction par l'Afrique des ressources en poissons et de façon non vraiment déclarée, puisque ce sont ce qu'on appelle des accords privés. C'est un peu occulte. Alors, il a fait toute une espèce d'enquête de détective absolument incroyable. Et en réalité, la Chine prélève, vous savez que la Chine a un besoin de protéines absolument incroyable. En réalité, elle prélève 3 millions de tonnes de poissons en Afrique par an. Alors, on va revenir un petit peu avec nos méduses. Je voudrais vous dire que cette surexploitation, enfin les captures sont stables, mais vous voyez bien qu'on est obligé de puiser dans la manne. Et cette surexploitation, elle est dirigée bien sûr vers certaines espèces de poissons. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on aime ? On aime les gros poissons. On aime les gros poissons. Alors on aime les saumons, on aime les morues, on aime les requins aussi. Et donc là, vous avez toutes ces espèces, comment elles ont été affectées, si vous voulez, par cette surexploitation. On a, dans les documents historiques, les chercheurs sont très bons pour faire ça, reconstituer les abondances passées. Vous savez combien il y avait de poissons il y a 100 ans, combien il y avait de tortues marines. Alors donc les chercheurs, ils passent leur temps à regarder les données, à reconstituer avec des modèles, etc. Et on arrive à reconstituer à peu près... concernant parfois l'évolution des abondances passées des espèces dans le temps. Alors par exemple, il y a eu des espèces qui ont beaucoup souffert de notre flèche du temps. Hein, vous savez, c'est par exemple les tortues marines, c'est moins 90%, donc elles ont baissé. Il ne reste plus que, quand il y avait 10 tortues marines, il y a 50 ans ou 80 ans, il en reste plus qu'une. Les requins, c'est 80-85%. La Méditerranée, je crois que c'est la mer la plus mal gérée du monde. La FAO nous dit que toutes les ressources sont surexploitées. Au niveau mondial, c'est à peu près 30% des ressources qui sont vraiment surexploitées. La Méditerranée, c'est presque 100%. C'est le record Guinness. Alors, Méditerranée, les requins, il y a eu une évaluation faite récemment, une évaluation globale mondiale des requins, et vous avez... Il y a certains endroits, c'est 60%, 80%. En Méditerranée, c'est 99%. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on ne s'aperçoit pas de ça ? Pourquoi on ne réagit pas ? En réalité, c'est une chose qu'on discute beaucoup dans le livre. C'est ce qu'on appelle... Alors, en anglais, il y a un terme qui est précis, c'est « shifting baseline ». On a eu beaucoup de mal à le traduire, mais c'est une perte des points de référence. En réalité, on a chacun une expérience. Alors moi, quand j'étais au Sénégal, oui, j'étais recruté au Sénégal, hop, on m'envoyait sur les plages de Kayar, Saint-Louis, et puis Soumbédioune, puis on m'a dit, tu comptes les pirogues et tu regardes ce qu'il y a dans chaque pirogue. Alors j'ai fait, c'était années 80, et dans chaque pirogue à Kayar, vous savez, c'est des pirogues à la main avec des lignes, il y avait, au moment de la saison de pêche, il y avait des mérous qui migraient. Ils pêchaient, à l'époque, entre 3 et 80 mérous. Alors, quand on regardait ça sur la plage de Kaya, vous savez, c'est une plage, je ne sais pas si vous étiez au Sénégal, c'est une plage qui fait des kilomètres de long. Il y avait des tas de poissons absolument incroyables. Alors, je suis resté pas mal d'années et on ne s'est jamais dit, on n'a jamais prononcé le mot surexploitation. Pourtant, on devait être les experts de la dynamique des populations. On n'a jamais présenté. Et puis, vous allez aujourd'hui à Caillard, Saint-Louis ou Sombétu. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des tas de poissons, c'est plus du tout les mêmes, ce sont des sardinelles. Avant, on pêchait beaucoup de poissons des mers sauces, ces gros poissons là que je vous ai montrés, et maintenant, on pêche des sardinelles. Alors, aujourd'hui, vous interrogez les Sénégalais. Vous savez, les Sénégalais, il y a le plat traditionnel qui est boudienne, avec du riz, du poisson, c'est bien équilibré et tout ça. Et ça a toujours été, il y a le tiof, c'est le tiof, le fameux mérou. Donc ce poisson-là, dans les années 80, on en pêchait 3, 4, 5 000 tonnes. Aujourd'hui, on en pêche 50 tonnes en raclant les fonds. Donc, un jeune chercheur qui va aller aujourd'hui sur la plage, il va me dire, il y a pas, voilà, l'écosystème marin, il produit des sardinelles, puis un petit peu de mérou. En réalité, c'est pas vrai du tout, parce que si on se reportait dans le temps, si on se reportait même pas longtemps, les années 80, on voyait bien que la productivité des océans a peut-être bien meilleure que ce qu'elle n'est. Donc, en réalité, à chaque génération, on perd cette faculté à évaluer la productivité réelle des océans. Et ça, c'est un mal qui nous frappe parce que notre cerveau, il est comme ça. Notre cerveau, il est comme ça, c'est-à-dire qu'on vit une certaine expérience et on pense que les choses fonctionnent comme ça parce qu'elles fonctionnent comme ça. Donc, on perd ces points de référence. Alors, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Alors, je vais vous montrer, donc, est-ce qu'on va aller vers un monde plein de méduses? Alors là, je vais vous montrer un exemple qui est peut-être l'exemple le plus extrême. C'est presque une expérimentation à grande échelle de ce qu'on peut faire avec un écosystème marin en poussant les choses jusqu'au bout, en étant jusqu'au boutiste. Alors, j'ai travaillé aussi en Namibie. Vous voyez, c'est cette zone-là. C'est une zone très, très productive. Et puis en Afrique du Sud, qui est une zone aussi très productive et très équivalente. Et vous voyez, il y avait en noir, vous avez des stocks de poissons, ce qu'on appelle les poissons pélagiques, c'est-à-dire des sardines et des anchois. Là, en Afrique du Sud, vous voyez que c'est à peu près stable, parce que là, ils ont bien géré. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Ce qui s'est produit, c'est que, vous voyez, tous ces poissons pélagiques, en réalité, ils ont été surexploités. Il y avait 10 millions de tonnes de sardines. 10 millions de tonnes de sardines qui ont été surexploitées. Dans les années 80, il n'y en avait presque plus. Et je leur demande toujours aux Namibiens, alors combien de sardines dans la mer? Et c'était en 2007, vous savez, ils font des grandes radiales, des grandes choses pour compter les sardines. Et ils m'ont dit, on a vu deux sardines. Ils avaient pêché deux sardines, deux. Pour une zone où il y avait 10 millions de tonnes de sardines. Donc, on a une vraie expérimentation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on retire tous ces poissons? Alors, quand on retire tous ces poissons, on a une gélification de l'écosystème namibien. C'est-à-dire, vous savez, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce qui se passe? À partir des années 80, on a vu entre 10 et 40 millions de tonnes de méduses qui se sont mis dans l'écosystème. Et les méduses en Méditerranée, vous les voyez simplement au printemps. De temps en temps, les touristes, ils sont embêtés par les méduses. Mais là, ce n'est pas les touristes, ce sont les pêcheurs. Donc, on a en été, aujourd'hui, 2 à 3 fois plus de méduses que de poissons. Donc vous voyez, on a une espèce de gadou de méduses, et puis il faut retirer les poissons. Donc voilà, l'écosystème, en réalité, c'est ce qu'on appelle en écologie un changement de régime. Et ça, vous m'auriez dit que ça existait il y a 10-15 ans, on vous aurait dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, ça n'existe pas dans le milieu marin. Et je me rappelle, j'avais écrit un papier en 1995 en disant, voilà, dans les lacs, vous savez, dans les lacs, il y avait une expérimentation absolument formidable. Il y avait des gens, ils voulaient savoir pourquoi les lacs, vous savez, des fois ils sont verts, puis des fois ils sont transparents. Eh bien, ça dépend en réalité du nombre de brochets, du nombre de prédateurs. Si vous avez, parce que les prédateurs mangent les petits poissons mangent le plancton, et le plancton, il est abondant ou il n'est pas abondant. Donc en réalité, de supprimer, vous savez, c'est ce qu'on appelle une cascade trophique, de supprimer un prédateur, ça peut changer la couleur de l'eau. Donc là, on a eu un changement de régime, c'est-à-dire qu'on a privilégié d'autres espèces dans l'écosystème. Mais, bien sûr, quand on fait ça, on change le fonctionnement des systèmes. Et vous avez, par exemple, j'ai plein d'amis là-bas qui travaillent chez les oiseaux, et en Namibie, ça a été un désastre, parce que ces 10 millions de tonnes de sardines, ils servaient aux nourritures, à tous les prédateurs, notamment les oiseaux marins. Et vous avez ici des manchots. Vous avez une photo faite à Lüderitz. Vous voyez, il y avait des colonies dans les années 30. Et puis, vous voyez le spectacle aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. En réalité, il y a eu deux choses. Il y a eu le réchauffement climatique, ça ne leur plaît pas beaucoup. Et il y a eu l'absence de nourriture, tout simplement. Donc, on a ce type de pattern et de modification de l'écosystème. Alors, une chose qu'on se... Vous savez, la pêche, c'est important. C'est important parce que c'est notre dernière activité de prélèvement d'une ressource sauvage. Quand je vous ai parlé des cycles dans la nature, c'est que ce n'est pas un cycle d'élevage, ce n'est pas des poulets d'élevage, ce n'est pas des cochons d'élevage, ce sont des cycles lents et des cycles où la nature doit retrouver son chemin. Alors, c'est notre dernière relation avec la nature, je dirais en termes d'exploitation, parce que c'est la dernière ressource importante que l'on exploite à une échelle industrielle. Alors, qu'est-ce qu'on faisait autrefois, quand il y a 10 000 ans, on faisait la même chose avec la chasse. La chasse, ça a permis notre survie. Et puis, finalement, on est passé à l'élevage, on est passé à l'agriculture, mais l'élevage, surtout, donc ça a complètement remplacé la chasse. Aujourd'hui, la chasse, c'est une activité récréative. Mais la pêche, ce n'est pas une activité récréative, c'est une activité industrielle. Alors, les gens se demandent, mais est-ce que finalement, la pêche, ça ne va pas suivre le même destin et devenir une activité récréative? Alors, je vous dis ça, mais en réalité, c'est dans tous les médias. Et vous avez là une couverture de Time Magazine qui demandait le futur de la pêche et qui disait, la pêche, on va la remplacer par l'aquaculture. Alors, en réalité, la pêche, vous savez, on ne va pas produire, je vous l'ai dit, la pêche, ça fait 85 millions de tonnes de protéines qui sont extrêmement importantes pour les pays du Sud, pour les pays du Nord. Donc, il faut maintenir des pêches. Moi, je suis le plus ardent défenseur des pêcheurs et d'une pêche qui soit durable. Alors, comment on va construire ces scénarios pour des pêches viables? Alors, vous savez, on a tous une vision différente du futur. Alors, bien sûr, il y a les pêcheurs qui veulent pêcher du poisson, c'est normal, ils gagnent leur vie. Les consommateurs, ils veulent du poisson pas cher. Les conservationnistes, ils veulent préserver des écosystèmes, ils veulent préserver des espèces. Et ce qu'il y a, c'est qu'il nous faut une vision. Une vision, alors une vision, vous allez me dire, c'est utopique, mais c'est les seules choses qui peuvent permettre de changer notre futur. Si on n'a pas de vision, vous savez, on termine là où on termine autre part. C'est-à-dire, on ne sait pas où. Et généralement, pas là où on va aller. Alors, la tâche la plus critique à laquelle nous sommes confrontés, c'est une vision partagée, parce que bien sûr, c'est ça qu'il faut. C'est vers quoi? D'une société durable et désirable. Désirable est important. Alors, bien sûr, une prospérité permanente, connaissant les contraintes actuelles, biophysiques, du monde, telles qu'elles soient justes et équitables pour toute l'humanité. Mais ce qui est vraiment important, et je dirais nouveau, c'est complètement nouveau dans nos sociétés, c'est aux autres espèces, c'est-à-dire les oiseaux marins, on ne les mange pas. Mais pourtant, est-ce qu'on veut les garder dans l'écosystème? Voilà des questions. Et aux générations futures. Alors, vous savez, en économie, les générations futures, ça n'existe pas. On n'a aucune considération en économie pour les générations futures. Alors, il y a quelques économistes éberlués qui travaillent un petit peu sur comment intégrer dans nos économies la considération de ceux qui vont venir après, parce que vous n'oubliez pas qu'on est en train de changer les choses. On a changé les choses, on a changé les écosystèmes. La tendance, c'est essayer de maintenir une biodiversité, maintenir des captures élevées, et puis maintenir des emplois dans la pêche. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'approche écosystémique des pêches. Je vous l'ai montré là avec l'exemple de la Namibie. Il ne suffit pas de gérer simplement une ressource, mais il faut aussi gérer les interactions, c'est-à-dire l'interaction par exemple, entre les sardines et puis les, par exemple les oiseaux marins, parce que ça ne suffit pas. Donc jusqu'à présent, nous, ce qu'on avait fait, moi, vous savez, je suis ce qu'on appelle un halieute, c'est-à-dire je travaille sur les poissons, les dynamiques des populations. Alors, jusqu'à présent, ce qu'on a fait, principalement, c'était on gère le stock de morues. Donc on compte les morues dans la mer, et puis on dit, ben voilà, il y a 100 morues, on en prend 50. Voilà, c'était grosso modo ça le business. Maintenant, avec l'approche écosystémique, il va falloir réconcilier l'exploitation, c'est-à-dire combien de morues est-ce qu'il faut que je laisse dans la mer pour proie des autres poissons, proie des oiseaux, proie des mammifères marins, et puis prendre ce qu'il faut pour ce qu'on peut prendre pour la pêche. Parce que ça, ce n'est pas simplement un doux rêve d'écologiste, que je ne suis pas. C'est aussi tout ce qui est mis en œuvre au niveau des Nations Unies depuis les années 60 pour avoir finalement des pêches responsables et des pêches qu'on appelle écosystémiques, c'est-à-dire qui prennent en compte pas seulement la dimension du nombre de morues dans la mer, et puis, mais toutes les interactions aussi, et puis le climat. Qu'est-ce qui va changer dans notre climat? Donc ça, on a aujourd'hui, vous voyez, il y a des déclarations qui sont faites comme par exemple à Johannesburg, où on s'est dit, où les nations se sont dit, on va développer cette approche écosystémique, donc réconcilier la conservation et l'exploitation, et on va reconstruire les stocks et ralentir la biodiversité. Donc l'idée, c'est d'éviter la dégradation des écosystèmes, minimiser le risque de changement irréversible, et puis maintenir donc les bénéfices de ce qui se fait. Des bénéfices écosystémiques à long terme sans compromettre les écosystèmes. Alors, l'Europe, et là il faut féliciter l'Europe, vraiment, parce que ça, aucun pays n'aurait mis ça en œuvre, aucun. Ah, et ça c'est unique au niveau mondial, c'est dit, on va définir l'état de santé d'un écosystème. On va faire 11 descripteurs comme ça pour dire voilà ce que c'est qu'un écosystème qui se porte bien, qui est productif, qui maintient la biodiversité. Alors vous trouvez ça certainement trivial, mais ce ne l'est absolument pas. Alors je vais vous donner un exemple. Un exemple, c'est la mer de Bohai, c'est en Chine, mer jaune, c'est une zone de la mer jaune. Alors dans cette zone-là, qu'est-ce qu'on a fait? Dans les années 70, ils ont complètement détruit tous les poissons de fond, parce que c'est les poissons, vous savez, c'est les dorades, c'est des choses comme ça. Donc, annihilés. Après, il restait quelques poissons pélagiques comme des styles sardines, anchois, etc. En 10 ans, ils les ont supprimés. Aujourd'hui, ils ont que des méduses dans la mer de Bohai. Et ce qu'ils font, alors ils aiment les méduses, c'est bien. Ils exploitent les méduses et maintenant ils surexploitent la méduse. Alors, comme ils ont surexploité les méduses, ils réensemencent en méduses dans la mer de Bohai. Donc, vous voyez, cette chose-là, ce n'est pas une vision écosystémique et ce n'est pas avoir définir et atteindre un bon état de santé des écosystèmes. Donc, d'avoir défini ça, finalement, au niveau européen, je trouve que c'est une avancée majeure dans notre relation avec la nature. Ça paraît complètement trivial et puis technique, ou je ne sais pas. Enfin, mais c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Voilà. Alors, il y a aussi une chose importante, c'est que vous l'avez vu, avec la courbe de la température, on est en train de changer, tout change. Donc, les changements globaux, ils sont là. Je vous ai montré celui de la surexploitation, de la pêche, qui change les choses, qui change, moi, vous savez, à 7, par exemple. Là, ils sont venus, les pêcheurs sont venus l'autre jour, et puis ils ont dit, il n'y a plus de poissons, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc, il y a de sérieux problèmes. Vous avez vu cette courbe de température, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc l'idée aussi au niveau mondial, c'était de se dire, finalement, au lieu de laisser filer les choses, il va falloir réagir à ces changements, il va falloir s'adapter, et il va falloir avoir des objectifs à long terme pour savoir quel avenir désirable on veut. Donc vous avez des objectifs à long terme, bon, il y en a, hein, c'est restaurer les stocks de poissons, maintenir la biodiversité, etc. Donc ça, si c'est désirable par une société, la question qui va se décliner après, c'est comment on fait ça? Comment on y va? Comment en 2050, on aura une nature qui sera, des écosystèmes qui seront pas pleins de méduses, mais exploitables, où on pourra avoir des pêcheurs artisans, etc. Donc Il y a une, vous savez, vous connaissez le GIEC qui vous parle, vous savez, vous avez beaucoup entendu parler du GIEC, c'est-à-dire le, c'est, ce sont les scientifiques qui se sont groupés depuis 15 ans hein, et qui ont travaillé très dur pour avoir une vision de notre planète et de son futur climatique. Alors aujourd'hui, vous avez l'équivalent, donc ça a démarré juste cette année en réalité, l'équivalent pour les écosystèmes terrestres et marins et pour les services écosystémiques. C'est-à-dire qu'on se, on essaie de regrouper toute la science, qui est une science extrêmement disparate sur les écosystèmes, et puis de se projeter dans le temps, c'est-à-dire voilà, de savoir, connaissant les contraintes, qu'est-ce qui va se produire et quel va être le futur de ces écosystèmes. Est-ce qu'on va encore produire de la vigne à tel endroit? Si ce n'est pas de la vigne, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Donc ça, c'est aussi une chose extrêmement importante au niveau mondial, c'est finalement d'intégrer une science pour relever les grands défis que l'on a à l'heure actuelle. Alors, si on fouille un peu dans l'histoire, vous savez, il y a eu une période absolument incroyable qui a créé le siècle des Lumières, c'était Diderot et d'Alembert. Du temps de Diderot et d'Alembert, il y avait des questions aussi de société importantes sur le futur. Et ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on va articuler la meilleure science pour informer les politiques publiques? Et puis, en réalité, ils en avaient un petit peu assez. Vous savez, il y avait plein de croyances, plein de religions qui informaient sur la Terre fait ceci, la Terre fait cela, elle n'est pas ronde, elle est plate, bla. Voilà. On sortait d'un certain obscurantisme et il y avait une science de l'observation, une science de la connaissance. Et l'idée, c'était de regrouper, et je peux vous dire qu'ils en ont bavé. Ils en ont bavé. J'ai lu si vous lisez les biographies de Diderot et d'Alembert, ils ont eu un mal fou. Alors ça, c'était quoi? C'était une entreprise humaine absolument faramineuse, c'est-à-dire ça a été 24 ans à 1000 personnes. Ils ont travaillé nuit et jour à faire cette encyclopédie. C'est à réunir tous les savoirs humains pour éclairer les actions publiques. Alors en réalité, vous savez, l'IPBES, ce que je vous ai montré, le GIEC, c'est la même chose. C'est-à-dire comment on peut connecter les gens, les chercheurs, pour donner au monde, à vous, au public, aux décideurs, la meilleure information intégrée dans un monde. Alors bien sûr, ce n'est pas 24 personnes pendant 24 ans avec 1000 personnes, c'est des centaines de milliers de chercheurs connectés par les moyens que vous savez, et qui vont travailler. Là, ils ont travaillé 15 ans, et c'est très dur comme travail. Et là, ça va être la même chose. Donc ça aussi, c'est nouveau, et je dirais que c'est très encourageant. Parce que là, c'est aussi prendre notre destin en main et replacer aussi la recherche au cœur des décisions publiques. Alors, on travaille à ça, et puis on travaille aussi, vous savez, alors ça, c'est Daniel et son groupe qui avaient fait ça. C'était un centre de conciliance. C'est-à-dire, vous savez, moi, j'étais au Grenelle de la mer, au Grenelle de l'environnement. Et puis, ce qu'on voit, c'est que dans la pratique, la décision, vous savez comment les processus de décision, des fois, quand plus on monte, plus c'est étrange. Parce qu'on ne sait pas comment ça se fait. Et alors, ce que vous apercevez, c'est par exemple, Grenelle de l'environnement, il y avait des tables comme ça, une grande table en U. Et puis, il y avait tous les participants, je veux dire, tout au ministère, il y avait tous les participants. Et puis, donc, qui étaient ONG, pêcheurs, etc. Et ce qu'on voyait, c'était qu'il était impossible, en tant que scientifique, de présenter, si vous voulez, des faits. Parce qu'il y a quand même une asymétrie quand même entre des savoirs qui sont toujours importants. Tous les savoirs sont importants. Mais il y a le savoir scientifique, quand je vous parle là, moi en réalité je vous présente des faits, et des faits qui ne sont pas faits par moi, qui ont été testés par des centaines de chercheurs, qui ont été discutés, etc. Donc c'est pas. Voilà. Donc il y a cette nécessité de communiquer les résultats scientifiques. Et à l'heure actuelle, les scientifiques font un bon travail, mais il faut encore l'améliorer. Et je me dis que communiquer des scénarios, communiquer, vous savez, cette volonté d'assembler les savoirs, par exemple sur la Méditerranée. Si si je veux savoir, par exemple, si je veux regarder qu'est-ce qui se passe en Méditerranée, à l'heure actuelle, je suis incapable de vous dire ce que, par exemple, d'assembler tous ces savoirs. Je suis incapable de m'asseoir devant un ordinateur ou dans cette salle de conciliance et de présenter un ministre ou un décideur et de lui dire ben voilà où sont les pêcheurs, voilà où sont les poissons, les oiseaux sont là, les mammifères sont là, les marchés sont là, etc. Donc pourtant, c'est ce qu'il faut faire si on veut avoir une décision qui soit articulée et qui soit performante. Donc l'idée qu'on a, c'est aussi de construire ces centres de conciliance. Alors en réalité, il y a toute une théorie sur la forme de la table pour communiquer, enfin, vous lirez ça, et comment on peut voir finalement, et puis agir sur le milieu. C'est-à-dire que vous pourrez avoir, online, vous pourrez avoir vos écrans, vous serez assis, et puis vous pourrez dire, ben voilà, moi je veux multiplier le nombre de pêcheurs par deux, mais d'ici 20 ans, voilà, je veux ça, ou je veux multiplier capture. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et donc, on va mettre en œuvre des modèles, des données, et puis on va dans un monde, parce qu'on a un monde contraint quand même, hein, donc on va montrer les possibles et les impossibles, connaissant toutes les meilleures connaissances scientifiques. Donc ça aussi, c'est pas une chose qui est complètement triviale, c'est une chose qui demandera du temps, mais c'est aussi là un enjeu absolument fantastique. Alors, bien sûr, il y a toutes ces choses, toutes ces choses qu'il faudra construire, mais est-ce qu'on peut vraiment s'adapter au rythme naturel? C'est notre rapport avec la nature. Alors, je vous ai dit, la pêche, c'est une ressource sauvage, et il faudra aller vers des pêches lentes. Alors, vous savez, il y a la slow food, vous connaissez la slow food. Vous mangez vite comme moi ou pas, mais il y a la slow food. Alors, il y a aussi des mouvements, et ça, c'est des mouvements qui prendront de l'ampleur forcément. Alors il y a aussi les pêches lentes. C'est bien sûr une métaphore d'une pêche qui pourrait s'adapter au cycle naturel de reproduction des espèces. Ça paraît trivial, mais voilà. Donc il faudra aller lentement, plus lentement que cette flèche du temps qui vous avez vue, hein. Rester petit, manger moins et mieux. Donc il faudra rendre les compatibles les prélèvements, renouvelant des ressources marines. Et puis, vous savez, la pêche, ce que je ne vous ai pas dit, mais quand vous allez chercher votre poisson, chez le poissonnier, vous le payez. En réalité, vous le payez deux fois. Vous le payez deux fois parce que vous payez une fois avec votre porte-monnaie et puis une fois en taxe. Parce qu'en réalité, la pêche en Europe, elle est subventionnée à 86% et en France à 100%. Donc, voilà un secteur d'activité qui ne peut pas tenir, et on le sait que ça ne peut pas tenir. Donc, il faudra aussi utiliser ces subventions-là. Moi, je veux bien qu'un secteur d'activité, finalement, c'est des choix politiques, mais utiliser ça pour détruire la biodiversité, ce n'est pas comme ça qu'on peut assurer la durabilité de l'exploitation. Donc, il faudra utiliser ces subventions pour rendre les pêches durables. Il faudra privilégier bien sûr les pêches artisanales parce qu'elles sont créatrices d'emplois. Et vous savez, on peut parler d'emplois en Europe. On est passé de 180 000 à 120 000 pêcheurs. En France, on est passé de 30 000 à 10 000 pêcheurs. Donc, le système actuel, il ne fonctionne pas. C'est une courbe qui atterrit. Donc, il va falloir aussi repenser ces modes d'exploitation. Et puis, ces pêches artisanales qui pourront être moins agressives. Bien sûr, ça voudra dire aussi manger autrement. Vous savez, à l'heure actuelle, nous, on travaille aussi à l'IRD au Pérou. Pérou, on pêche 10 millions de tonnes, entre 5 et 8 millions de tonnes d'anchois. Et alors, tout cet anchois-là, il part à la farine. Tout. 8 millions de tonnes. Donc, c'est le grand producteur mondial de farine. Il y a une telle demande en farine de poisson. Je regardais les prix hier, c'est une exponentielle. C'est-à-dire que ça vaut 2000 euros la tonne maintenant. Donc, même si vous voulez acheter un anchois au Pérou, un anchois pour faire frire dans votre poêle, vous ne pourrez pas. Parce qu'il est absorbé par l'Asie, il est absorbé par les marchés de volaille et les marchés de porc. Et donc, on pense beaucoup, vous savez, à la sécurité alimentaire. Moi, je suis dans plein de groupe de travail, Académie des sciences, tout ça, sur réfléchir à la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va manger des grillons, des vers de terre? Enfin bon, des choses comme ça. Mais il y a des choses dont on pourra plus se permettre, c'est par exemple de transformer 8 millions de tonnes, parce que vous nourrissez du monde avec 8 millions de tonnes de protéines d'une qualité sauvage, bio, en quelque chose qui est dénaturé, de la farine de poisson, puis après vous transformez ça en poulet de pas très bonne qualité, souvent, etc. Donc il y aura des changements alimentaires. En ce moment, dans tous les grands journaux, il y a des grandes projections sur les 20 prochaines années. Et puis même dans les médias, vous voyez bien qu'est-ce qu'on va manger demain. On va manger des méduses, on va manger des vers de terre, des grillons. Alors, au lieu de dire ça, il faut dire on va gérer la mer. Parce que la mer, en réalité, elle peut produire beaucoup. Vous savez, cette année va sortir un énorme papier de mon ami Poli. Il a reconstruit toutes les captures. Parce que dans ces 85 millions que je vous ai montrés, en réalité, c'est beaucoup plus. Parce qu'il y a plein de pêches illégales, il y a plein de petites pêches artisanales qui ne sont pas prises en compte. Donc, ce secteur-là, c'est beaucoup plus. C'est peut-être, on va arriver les 130 ou 140 millions qui avaient dans les. En réalité, la mer et peut produire beaucoup plus que les 85, peut-être 120, peut-être 130 de façon durable. Mais il faut gérer les choses. Et gérer la pêche, vous savez, c'est 1000 fois plus facile que de traiter le problème du changement climatique. Le changement climatique, je pense, c'est impossible. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Le problème de la pêche, c'est un problème élémentaire. Alors, le livre, je ne vous en ai pas énormément parlé, mais c'est plein de petites histoires sur la cycle de la nature. Et puis, c'est une réflexion sur notre place dans la nature. Qu'est-ce qu'on veut? Parce que maintenant, on est un peu maître de notre destin. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut la mer de Bohai avec que des méduses, où on veut des écosystèmes viables avec des poissons, des oiseaux marins, des mammifères marins. Mais ça, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est notre choix. Alors, si on ne le fait pas maintenant, on ne pourra pas le faire dans 20 ans ou 30 ans, parce que ce sera trop tard. Vous savez, il n'y a rien de pire. Moi, j'ai travaillé 40 ans sur la gestion des ressources marines. J'étais dans plein de pays, et il n'y a rien de pire que le laisser faire. Le laisser faire, ça vous amène toujours là où vous ne voulez pas aller. Donc, comme la Namibie, on laisse faire, on laisse pêcher, on ne régule rien et tout ça. Donc, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on veut et quelle place on veut prendre. Est-ce qu'on veut dominer la nature ou bien alors est-ce qu'on veut, si vous voulez, accompagner ces choses-là. Donc voilà, je vous remercie.
C'était Philippe Curie en conférence à l'Alcazar dans le cadre du cycle proposé par l'IRD, un livre, un chercheur. Son livre « Mange tes méduses, réconcilier les cycles de la vie et la flèche du temps » est édité chez Odile Jacob. Prochain rendez-vous avec la science sur les 3-8, samedi 3 janvier.